Et c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui est un invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Extrait à suivre dès le début de ce journal. Les élus du Congrès réunis ce matin, boulevard Vauban, à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire, l'examen du budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie aura lieu le 28 mars. La cybercriminalité en Nouvelle-Calédonie passée au peigne fin. Laurent Rivaton, spécialiste de la question, vient de rendre public le résultat d'une étude qu'il a menée l'an dernier. Les élèves de 6e unis contre le harcèlement scolaire. L'année dernière, une classe du collège Edmé Varin à Auteuil, à Dimbéa, a réalisé un clip vidéo dans le cadre d'un concours. Ils ont été récompensés ce matin par le vice-recteur. Dans ce journal, à ne pas manquer l'agenda festif de votre week-end, la langue française sera à l'honneur avec demain la dictée du Pacifique en ouverture de la semaine de la francophonie. Et puis à suivre également à la fin de ce journal, l'agenda sport de votre week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. 10 mois après le 13 mai, Sonia Lagarde se dit meurtrie par ce qui s'est passé, mais elle déclare que maintenant, il faut repartir et reconstruire. Le maire de Nouméa était donc ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Bodin.
Sonia Lagarde a été interrogée sur les dégâts causés à la ville de Nouméa par les violences insurrectionnelles, mais aussi sur les causes de cet embrasement. Pour elle, il s'agit d'une action très politique.
On met beaucoup de choses aujourd'hui sur le compte d'une jeunesse, d'une partie de la jeunesse qui ne s'est pas retrouvée et d'une révolte de la jeunesse. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les partis politiques, en tout cas indépendantistes, essaient de se sortir de ça. Moi, je ne suis pas convaincue de ça. Je pense qu'on a formaté les esprits. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Je pense que bien avant cette insurrection, on a formaté les esprits pour leur dire qu'il faut y aller cette fois-ci. Je reste persuadée parce qu'aujourd'hui, quand on parle un peu avec les forces de l'ordre, il y avait une telle détermination et puis tout ça était très très bien organisé. On a beaucoup joué au chat et à la souris avec la police, donc ça veut dire qu'on savait ce qu'on faisait. Donc voilà, moi je reste persuadée et je pense qu'on ne peut pas tout mettre ça sur le dos d'une jeunesse qui ne se retrouve pas dans cette société dans laquelle on vit. Il y avait un fondement politique fort qui était à travers le dégel du corps électoral qui amenait justement à se dire on va tout prendre par la force et puis on sera indépendant.
Et Sonia Lagarde parle aussi de l'anéantissement de 40 ans de progrès et de paix. Ces émeutes ont provoqué 6 milliards de dégâts pour la ville de Nouméa. 37 bâtiments municipaux, dont 4 écoles, ont été brûlés et saccagés. Il y a eu des dommages considérables sur la voirie et 57 caméras de vidéoprotection ont été détruites. Les conséquences financières sont considérables, mais lors de son débat d'orientation budgétaire, la ville est arrivée à équilibrer son budget. Elle a notamment pu bénéficier de 5 milliards versés par son assurance, mais elle a dû faire face à des recettes à la baisse, avec notamment une baisse de 25% du FIP, le Fonds intercommunal de péréquation.
Le financement d'une commune comme la commune de Nouméa, on a à la fois du FIP, 4,8 milliards, on a 5,1 milliards de centimes additionnels. Et ça, on n'en parle jamais. Les communes sont polarisées sur le FIP. Mais il faut dire que certaines communes touchent des centimes additionnels. Donc c'est les droits d'enregistrement, c'est l'IRVM, c'est les patentes, etc. La Nouvelle-Calédonie a été, toute l'année 2024, dans l'impossibilité de nous verser ces centimes additionnels. Et donc, on s'est retrouvé à la fin de l'année avec un gap de 5 milliards, puisqu'on ne les avait pas perçus. Quand l'État a envoyé de l'argent à la Nouvelle-Calédonie avec un fléchage en disant c'est pour les communes, on a pu rattraper tous ces centimes additionnels, 5 milliards nous a été versé à la fin de l'année. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, moi j'ai jugé utile, important, de payer toutes les dettes qu'on avait. On a payé les 2,6 milliards aux entreprises qu'on devait, on a remboursé notre ligne de trésorerie à la banque qui était d'1 milliard, plus les intérêts bien évidemment.
Dans son projet de budget 2025, la municipalité prévoit de maintenir les investissements à hauteur de 2,1 milliards. Et l'une des priorités, ce sera la reconstruction après les émeutes.
On a déjà les voiries endommagées, on en a pour 1,4 milliard. On a le réseau d'éclairage public, dont beaucoup de lampadaires ont été mis à terre, il y en a pour 232 millions. Il y a la vidéoprotection qu'il faut refaire. Il y a les véhicules et les engins. On a eu plus de 100 véhicules qui ont été brûlés, et des véhicules des services. Donc il faut remplacer le mur d'escalade qu'on va reconstruire, la direction des services sanitaires qui est un service essentiel dans la ville qui lui a complètement brûlé à Moravel. Et puis on va faire des études bâtimentaires. Ça, j'insiste sur ce point parce que quand vous avez des bâtiments qui ont été à moitié brûlés, où on peut dire, l'expert dit, mais là vous pouvez reconstruire. On ne peut pas reconstruire si on ne fait pas des études sur les murs qui ont été endommagés, noircis. Est-ce qu'on peut construire à côté? Donc ça demande des études et surtout des études de ciment pour voir comment ça peut tenir le coup si jamais on démolit pas. Et donc, on a mis 25 millions à peu près pour faire toutes ces études. Donc voilà, on est engagé à reconstruire ça. On reconstruit pas tout. On ne reconstruira pas les écoles.
Pas de reconstruction des écoles en raison de la baisse des effectifs scolaires. La municipalité s'interroge sur la reconstruction des médiathèques de Rivière-Salée et de Caméré et sur celle du pôle des services de Rivière-Salée. Une partie des dépenses d'investissement sera consacrée à la poursuite des travaux engagés.
Il a fallu faire un exercice de priorité. Donc la poursuite du bâtiment des archives dans la ville, celui-là, et voilà, il y a le terrain de la polyclinique aussi qui se termine. Il y a la jeune Seine qu'il faut réhabiliter. Il y a la rue Jaurès où il y a des gros travaux d'assainissement en ce moment. Ça pourrit un peu le commerce, mais il fallait y aller. On avait fait toute la rue de l'Alma et donc il fallait faire le pendant parce que quand on a des pluies diluviennes ou des pluies centenaires, ça rentre dans les magasins, donc il fallait s'en préoccuper, donc il faut le faire. Il y a la route du port des Pointes aussi qu'il faut continuer, la troisième phase qui sera bientôt finie. Il y a la piste cyclable du Faubourg Blanchot qui va repartir. Il faut continuer la poursuite des trottoirs et la place Birakem aussi qui va être rénovée. Et il y avait des travaux à faire parce qu'on avait du dallage qui ne tenait plus, il y avait des infiltrations d'eau, etc. Donc on est en train de refaire cette place Birakem.
1,5 milliard sera consacré à la poursuite des travaux engagés, alors qu'habituellement la ville de Nouméa consacre 5,2 milliards par an à ses investissements. Mais le maire de Nouméa assume une gestion extrêmement prudentielle en raison de l'absence de visibilité sur les centimes additionnels ou sur le FIP. Autre préoccupation de Sonia Lagarde, la recrudescence de la délinquance et notamment le problème de l'augmentation des SDF.
Moi je suis inquiète de ce qui se passe dans la ville. Je ne vais pas rajouter de l'anxiété à celle qui est déjà existante, mais le fait est là et il ne faut pas nier les événements. On a des bandes qui traînent dans la ville de plus en plus, mais on a surtout de plus en plus de SDF. Ça, on l'a constaté. Moi, j'avais fait une étude avec les maraudes et mon CCAS en 2020. On avait en file active 600 SDF dans la ville. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint le millier. Depuis les événements, il y a des gens qui sont restés dans la ville. On est tous les jours à faire face à une mendicité agressive que je déplore. Le constat qu'on peut faire là-dessus, d'abord, ils sont tous dans des conditions très addictives, où on mendie pour aller acheter un popper de vin, voire, puisqu'on n'a pas assez, de l'alcool à brûler. Donc ça, c'est quand même pas génial. J'ai vu que la police, il y a une vaste opération qui a été faite sur Chinatown, qui sont des points de deal connus. Ces opérations vont perdurer, sauf que sur les SDF, on manque d'outils. Donc là, moi, j'ai demandé au commissaire et à la directrice de la police nationale, on va organiser une réunion, parce qu'il y a des responsabilités qui sont multiples.
Sonia Lagarde a aussi été interrogée sur les discussions concernant l'avenir institutionnel. Elle affirme qu'un accord est indispensable.
Ah ben, il faut un accord, évidemment. Il faut un accord institutionnel parce que un accord institutionnel amènera à une stabilité économique. Donc, bien sûr qu'il faudra en passer par là. Et puis, on ne peut pas se revoir tous les 20 ans pour dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, oui, il le faut, mais ce sera compliqué, ce sera long et difficile. J'ai entendu des gens qui pensaient que tout allait se régler en un coup de cuillère à peau en 3 jours. On part de tellement loin des deux bords que comment voulez-vous qu'on arrive à trouver le chemin médian qui amène à une solution. Et d'ailleurs, le ministre s'est exprimé récemment sur une radio métropolitaine et il disait, ça va être compliqué puis ça va être long surtout.
Sonia Lagarde salue le fait que Manuel Valls ait réussi à mettre tout le monde autour de la table. Elle estime que le document rendu public par le ministre des Outre-mer est comme un devoir donné aux élus pour les forcer à parler de tout.
Une interview de Sonia Lagarde qui sera rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est également disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Les élus réunis en séance publique ce matin dans l'hémicycle du Congrès pour une séance consacrée au débat d'orientation budgétaire. Il s'agissait pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de présenter aux conseillers un état des lieux de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de présenter ce que pourrait être le budget de la collectivité pour l'année 2025. En ouverture de cette séance, le président du gouvernement a pris la parole, rappelant que la situation économique du territoire était bien plus que catastrophique, a-t-il dit. La Nouvelle-Calédonie a perdu plus de 11 000 emplois salariés, les rendements fiscaux sont en très forte baisse, le PIB s'est effondré de 18%, mais aussi un taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie qui est de 300%. Écoutez Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
C'était l'occasion pour nous pour rappeler des choses que tout le monde sait maintenant depuis presque un an. La difficulté dans laquelle les différentes institutions sont, la difficulté dans laquelle les familles calédoniennes, les agents économiques, les entreprises sont. Donc je pense que l'étape d'aujourd'hui, c'était de tracer une certaine trajectoire pour le budget de la semaine prochaine, qui sera la deuxième étape. Mais c'était surtout pour se rappeler le contexte et les réalités contraintes auxquelles tout le monde doit faire face. Tout est contraint, va falloir apprendre à faire avec ce qu'on a. Et c'est un effort collectif que tout le monde doit faire. Et ça, pour moi, c'est pas un espoir ou une espérance, c'est une obligation.
Et à l'issue de cette séance, les élus ont pris acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire, lors duquel il a notamment été question du prêt de 120 milliards garanti par l'État. À ce propos, l'ensemble des présidents de groupe, les présidents de province et le gouvernement ont tous co-signé une lettre qui va être adressée au ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Écoutez à ce sujet Philippe Dunoyer pour le groupe Calédonie Ensemble.
Éviter qu'on nous fasse payer des intérêts immédiatement alors qu'on n'en a pas les moyens, et puis s'assurer que la ventilation de ce prêt ira au plus pressé et que la Nouvelle-Calédonie ne sera pas obligée de payer des dépenses de frais entre l'AFD, la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts. Donc cette démarche, elle est importante, elle est issue d'une résolution qu'on avait adoptée au Congrès, qui nécessitait, on l'avait dit au précédent gouvernement et je l'ai redit aujourd'hui, qui nécessite qu'on soit beaucoup plus associés. C'est le cas au travers de ce courrier notamment, aux décisions susceptibles d'être prises.
Le prêt de 120 milliards de francs qui devrait encore faire beaucoup parler le 28 mars prochain lors de l'examen du budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, Milakulo Tukumuli de l'éveil océanien.
Nous on pense que c'est un cadeau limite empoisonné. Parce qu'avoir 120 milliards pour les collectivités, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais on ne va pas s'imposer de faire des réformes. Et surtout à quelques encablures des élections provinciales. Et c'est ça qui nous inquiète. On n'aime pas trop l'idée d'emprunter pour du fonctionnement. C'est ce qu'on fait, hein. On vient boucher les trous du RUAM, des NERCAL. Ce sont des réformes qui dépendent de nous. Et donc on va rentrer dans une seringue et dans un tuyau qui consiste à dire qu'il faut faire des réformes, sinon on n'a pas d'argent. Nous, on a toujours été dans une trajectoire qui consiste à dire pour faire des réponses pour notre pays, parce que notre pays en a besoin.
Et c'est donc un budget forcément très contraint qui sera débattu dans quelques jours, budget qui sera capital pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens. Pour le budget 2025, le gouvernement va proposer toute une série de mesures, une série de réformes qui devraient permettre de réduire le déficit public, de relancer l'économie et d'éviter un effondrement total de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Virginie Rufnac, la présidente du groupe Rassemblement au Congrès.
C'est une trajectoire vertueuse qui nous est proposée par les membres du gouvernement et son président ce matin, avec une nouvelle pratique de contrôle de gestion de la Nouvelle-Calédonie qui est mise en place. C'est important, nous ne l'avions jamais fait ces dernières années, avec une réduction évidemment des dépenses publiques, du coût de fonctionnement. Nous devons gagner en autonomie économique en Nouvelle-Calédonie, mais pour cela, il faut que les gens reviennent, il faut recréer la confiance, et surtout, il faut réinvestir, et la puissance publique, si elle fait des économies sur ses dépenses, va pouvoir réinvestir pour que les chefs d'entreprise aient à nouveau des carnets de commandes remplis, alors qu'ils sont aujourd'hui véritablement au bord de l'effondrement pour beaucoup d'entre eux.
Et c'est donc un vrai numéro d'équilibriste auquel va devoir procéder dans les jours à venir pour préparer le budget, le gouvernement. Un budget pour lequel chacun va devoir faire des efforts. Itoupen Fiewe pour le groupe Unipalika.
Compte tenu des difficultés, nous avons bien conscience que l'exercice est difficile, mais l'effort collectif des collectivités doivent être de mise, puisque cet effort nous permettra de honorer, les besoins des services publics. Le gouvernement parle de relance économique, bien sûr, mais nous aurons préféré qu'on poursuive aussi des réformes sur l'existant, si c'est à fiscalité constante. Bouger sur ça pour pouvoir amener des recettes supplémentaires pour la Nouvelle-Calédonie.
Et rappelons que le budget primitif 2025 de la Nouvelle-Calédonie sera examiné le 28 mars prochain. J'ajoute que cette séance au Congrès ce matin s'est ouverte par un hommage à Bernard Maran. Une minute de silence a été respectée en mémoire de l'ancien maire de Dimbéa qui avait aussi siégé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie entre 1989 et 1995.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 79% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables au déplacement à des vols d'Aircal de Magenta à Tontouta. Ils sont 21% à dire qu'ils s'y ont opposés. Notre question du jour, 10 mois après les émeutes du 13 mai, craignez-vous une recrudescence de la délinquance en Nouvelle-Calédonie? Si vous la craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 18h02, on marque une première pause dans ce journal.
samedi au marché de Ducosse, sous la halle du marché de Gros. Plus de 80 exposants vous accueillent dès 5h du matin. Poissons, crustacés, fruits, légumes, œufs, viande, charcuterie, produits laitiers, miel, fromage, achats, confiture. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le marché de Ducosse, c'est tous les samedis matins et aussi chaque mercredi à partir de midi.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite info soir, Lionel Sabot.
Actualité économique et les prix à la consommation qui sont restés un peu plus stables en février. Après une hausse de 0,7% en janvier, l'indice général s'est stabilisé le mois dernier selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'ISEE, Léo Fichou.
Le recul des prix des services et des produits manufacturés, moins 0,3%, compense l'augmentation des prix de l'énergie, plus 0,7%, et de l'alimentation, plus 0,3%. Dans le détail, les prix des services diminuent principalement en raison de la baisse saisonnière des tarifs du transport aérien international de passagers, moins 17%, et du repli des prix du transport maritime intérieur de voyageurs, moins 3,5%. La baisse des produits manufacturés se poursuit avec moins 3,3% pour les vêtements, moins 9,9% pour les équipements de téléphonie. À l'inverse, les prix des gros outillages et matériels électriques sont en hausse de plus 12,3%. En ce qui concerne l'énergie, les prix augmentent, plus 0,8 pour l'essence, plus 0,5 pour le gasoil, plus 5,6 pour le gaz et enfin plus 0,4 pour le charbon. Seuls ceux de l'électricité restent stables au mois de février. Enfin, la hausse des prix de l'alimentation ralentit mais se poursuit tout de même pour le troisième mois consécutif, plus 0,3%. Sur un an, l'indice général des prix à la consommation augmente de 2%.
La cybercriminalité en Nouvelle-Calédonie est une réalité. C'est ce qu'a voulu démontrer Laurent Rivaton, spécialiste de la question. Il animait une conférence ce matin à la station N pour dévoiler les résultats d'une étude qu'il a menée l'année dernière. Laurent Rivaton a mené des travaux de recherche en achetant des données volées, mais tombées dans le domaine public et mises à disposition des chercheurs. L'inventaire est donc incomplet et le nombre d'attaques est minimisé. Mais pour Laurent Rivaton, ces chiffres démontrent que le territoire, comme le reste du monde, est bien concerné de manière importante par la cybercriminalité.
Ça existe vraiment, c'est pas un fantasme de professionnels de la cybersécurité et qu'aujourd'hui, là maintenant, au moment où je parle, il y a des gens qui vraiment ont été piratés sur leur ordinateur. C'est une fourchette de 500 à 900 ordinateurs sur le territoire qui ont été piratés depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à maintenant. Ben là, il y a plein de données qui ont été volées sur les ordinateurs de ces personnes-là. C'est extrêmement simple. Les cybercriminels, ils font ça pour gagner leur vie. Donc, c'est toujours une histoire d'argent. C'est très très facile, par exemple, d'envoyer un courrier électronique à la victime et de lui dire « Bah, écoute, fils, je me suis connecté à ton poste, je t'ai piraté. Et d'ailleurs, je te le prouve en te donnant telle information. » La victime n'aura aucun doute sur le fait que le piratage a vraiment eu lieu. Et puis après, la couche d'après, c'est de dire « Bah, j'ai vu aussi que tu allais sur des sites porno, que tu téléchargeais des logiciels piratés ou des films volés. Et ben, si tu veux pas que j'envoie ces informations à l'intégralité des personnes qui sont dans ton carnet d'adresse, ben, il va falloir m'envoyer un petit billet. » Et puis, ben, si la personne en question, la victime, est pas à l'aise avec ces pratiques, ça devient compliqué de ne pas payer.
Des chiffres présentés ce matin à la station N devant une centaine de personnes en présence également de représentants de la cellule cybercriminalité de la police nationale. En cas d'attaque, le premier conseil est de ne pas payer la rançon, de déposer plainte et surtout le mieux reste de se protéger en amont. L'OPT signale cet après-midi des perturbations des connexions vers l'Europe. Des incidents majeurs affectent actuellement les câbles sous-marins reliant Singapour au continent européen. Par conséquent, certains flux Internet transitant par l'Asie subissent des perturbations et ce depuis le 6 mars dernier. Les fournisseurs ont redirigé le trafic via les États-Unis, mais malgré cela, des lenteurs peuvent persister, notamment sur les connexions vers l'Europe. La situation est suivie de très près par les agents de l'OPT. Très Limiter les auteurs, c'est aussi protéger les victimes. Une phrase martelée cet après-midi au centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales à Nouméa, Léo.
Et oui, des mots employés par Yves Dupas, le procureur de la République, mais aussi par Isabelle Chamorreau, membre du gouvernement chargée des sujets liés à la famille et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faisait cet après-midi un bilan de fonctionnement de ce centre qui est ouvert depuis seulement quelques mois, depuis le 3 décembre dernier. Un centre qui répond à un fléau majeur sur le territoire, les violences intrafamiliales et plus particulièrement conjugales. Même si les chiffres sont en baisse, la situation nécessite toujours une réponse coordonnée. Depuis son ouverture, ce centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales accueille 8 personnes avec un double objectif. Les explications d'Yves Dupas, le procureur de la République.
C'est de favoriser l'éviction du conjoint violent, hein, du domicile, pour éviter à la victime la double peine. Hein. Et deuxième objectif, c'est mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire, suivi psychologique ou psychiatrique, suivi par un addictologue, pour prévenir la récidive. Hein, c'est-à-dire de mener un travail médico-psychologique très important pour effectivement permettre à ces auteurs de retrouver un cadre familial respectueux vis-à-vis du conjoint et vis-à-vis de la loi également.
Isabelle Chamorreau, membre du gouvernement chargée notamment des sujets liés à la famille et de l'égalité entre les femmes et les hommes, remarque des retours positifs.
On commence à avoir des retours aussi assez positifs, à la fois sur la prise en charge et aussi sur la réflexion des auteurs qui finalement comprennent qu'il faut rentrer dans une démarche de prise en charge, qui comprennent aussi qu'ils peuvent perdre tout ce qui est leur vie de famille, leur vie professionnelle aussi, puisque les gens continuent à travailler et même participent aux frais de fonctionnement du centre. Donc ce qui est important pour nous, même si c'est un nombre de personnes qui est limité, c'est vraiment d'aboutir à cette prise de conscience de la gravité de leurs actes pour éviter qu'ils récidivent. Si ça vraiment porte ses fruits, soit augmenter la capacité d'accueil, soit peut-être également délocaliser le dispositif, puisqu'on sait que évidemment ça touche aussi la province Nord et la province des Îles, et on aimerait amener ces provinces également à participer à ce dispositif.
Un centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales basé dans le centre-ville de Nouméa qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes suite à des décisions de justice.
Ensemble contre le harcèlement, on fait front, toi et moi. Ce sont les paroles engagées, écrites par les jeunes élèves du collège Edmé Varin à Auteuil, à Dimbéa. L'année dernière, alors en classe de 6e, ils ont réalisé un clip vidéo baptisé Ensemble. Ce matin, ils ont reçu la visite du vice-recteur venu récompenser leur engagement, Charlotte Coulson.
Les mots sont forts, les images sont marquantes. L'année dernière, 26 élèves de la classe de 6e 4 du collège d'Auteuil se sont lancés dans le concours Acrovie, piloté par le vice-rectorat. Aidés de leur professeur d'histoire Nathalie Barbonson, ils ont ensemble écrit les paroles de leur chanson Ensemble sur la thématique du harcèlement scolaire. Les élèves ont ensuite été accompagnés par des professionnels pour l'enregistrement et la réalisation du clip musical. Maintenant, en classe de 5e, ils étaient réunis ce matin pour présenter leur travail au vice-recteur Didier Vindatich. L'occasion pour ces jeunes d'expliquer leur démarche.
Ensemble, contre le harcèlement, on fait front, toi et moi.
Déjà au début de l'année, avant les événements, on a travaillé sur les paroles du clip et on a choisi la bande son.
Au début, notre prof, elle avait donné des mots et comme on n'a pas trop aimé, on a changé, on avait fait un groupe, on a fait un vote pour la meilleure parole.
Le harcèlement scolaire, c'est quelqu'un qui se fait embêter par une ou plusieurs personnes en répétition.
C'est important de ne pas harceler parce qu'après, ça peut emmener à des élèves qui ne viennent plus à l'école, qui puissent faire par exemple des bêtises.
C'est toujours présent dans certains collèges de toute la Nouvelle-Calédonie, en métropole et partout dans le monde.
Vraiment, on est hyper contents du travail qui est ressorti à la fin. On ne pensait pas que ça allait rendre aussi bien.
Bien sûr, ça ne sera jamais parfait, mais sinon, c'était super, j'ai trop bien aimé.
Oui, je suis très contente, surtout qu'on avait l'une des meilleures profs d'histoire. C'est la meilleure prof que j'ai eue, elle a été très gentille avec nous.
Merci Madame Barbonson.
Un travail qui a évidemment été salué par de nombreux enseignants et le vice-recteur. Didier Vindatich s'est déplacé ce matin pour récompenser personnellement l'engagement de ses collégiens. Comme il le rappelle, la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire est une priorité.
Alors, il est vrai que lorsqu'on avait fait notamment une émission de radio dans vos locaux, on ne disposait pas des élèves, ceux-là même qui avaient fait le clip. Donc, on est très contents ce matin de venir les rencontrer, les récompenser aussi pour la qualité de ce travail. Et puis, c'est évidemment pour nous l'occasion d'échanger avec eux sur le harcèlement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont probablement faire, avec aussi nos partenaires institutionnels, comme au collège Païta dans lequel on s'était rendu il y a presque un mois, ils vont à leur tour porter des messages, les élèves, de lutte contre le harcèlement.
Et comme vous l'avez entendu, un magazine citoyen était justement consacré à cette thématique du harcèlement scolaire sur nos ondes, disponible bien sûr en podcast et vidéo sur notre site rrb.nc. Et notez ce numéro gratuit et anonyme de soutien SOS Écoute au 05 30 30, le 05 30 30.
Allez, comment occuper votre week-end ? Différentes activités seront au programme de la journée de demain. On commence avec un rendez-vous pour les amateurs de langue française. Charlotte, c'est la dictée du Pacifique qui sera proposée à Nouméa et Païta.
Car c'est la semaine de la langue française et de la francophonie qui commence demain et qui dure jusqu'au 22 mars. Alors comme chaque année, une grande dictée est organisée par l'association Alliance Champlain. L'événement est ouvert à tous à partir de 13 ans. On écoute les précisions de Daniel Mirou, le président de l'Alliance Champlain.
C'est un texte d'un auteur local, en l'occurrence c'est d'une autrice. L'année dernière, on a eu Roland Ronsereau qui était donc l'élément moteur de cette dictée. Et cette année, on a choisi donc une autrice qui est poète, qui est conteuse et qui, j'espère, donc ravira les participants par sa dictée, qui n'est pas très difficile d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on choisit toujours un auteur local plutôt que des dictées à la Bernard Pivot, qui sont peut-être très, très sympathiques au départ, mais qui font, je dirais, un petit peu, non seulement égarer, mais repousser un certain nombre de personnes qui seraient intéressées à l'orthographe. Donc il faut que ce soit une orthographe adaptée à tout un chacun.
Et la dictée du Pacifique, c'est demain à 13h30 dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa, mais aussi à la même heure dans la médiathèque municipale de Païta.
Alors pour les amateurs d'art, virgule, le centre culturel Djiba ouvre ses portes demain, point, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le centre à travers diverses animations et activités proposées. Parmi elles, des ateliers dessin, des visites guidées, des spectacles de danse et bien d'autres. Les visiteurs sont attendus de 9h à 16h. L'entrée sera libre et gratuite. Dans un autre registre, la ville de Nouméa organise cette année encore le concours Gomonga. C'est à la médiathèque municipale.
Au programme de la journée de demain, des concours bien sûr, des ateliers gratuits, des initiations et bien d'autres activités que nous détaille Marie Von Raguet, la responsable de la médiathèque municipale de Nouméa.
On va proposer des coloriages géants, des puzzles, nous aurons différents ateliers comme de l'origami, mais on va aussi avoir de l'initiation carte One Piece. Nous proposons aussi à l'espace Microfolie, donc notre musée numérique, un art folie spécial Japon. Ça sera autour de l'estampe et du dessin à l'encre de Chine. Et nous aurons aussi un atelier haïku et enfin un atelier portrait BD. Donc venez vous faire tirer votre portrait version bande dessinée. Alors les concours se font sur inscription. Donc le public pourra trouver à l'accueil tous les règlements et toutes les fiches d'inscription relatives aux différents concours. Nous avons le concours de cosplay, le concours de dessin. Et nous avons toujours le Manga Top et Quiz, c'est une série de questionnaires sur une sélection bibliographique que nous avons mis en avant.
Et le concours Go Manga est lancé à 9h demain et dure jusqu'à 16h à la médiathèque de Nouméa. Les inscriptions se feront directement sur place.
Et demain encore, c'est la 16e édition de la Méga Rex Party, le Rex, espace emblématique de la culture locale qui fête ses 95 ans.
Et ce sera l'occasion justement de s'aventurer dans les coulisses du Rex, découvrir l'histoire du lieu. Des spectacles seront également proposés, de danse notamment. L'entrée est gratuite pour les adhérents et à 1000 francs pour les visiteurs. Rendez-vous à partir de 18h demain au Rex à Nouméa. Et on finit ce tour des sorties du week-end avec un vide-grenier proposé au stade de Sainte-Marie, un événement organisé par le foyer des personnes âgées de Enghea, l'occasion de chiner et de pourquoi pas trouver votre bonheur à petit prix. Rendez-vous de 6h à midi demain au stade de Sainte-Marie.
Il est 18h16, une dernière pause à suivre, sport et météo.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Et on va ouvrir notre agenda du week-end avec du rugby et la dernière journée du tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Une journée décisive pour le 15 de France. Léo Fichou qui affronte l'Écosse dimanche matin.
Et oui, les Bleus qui ont les cartes en main pour remporter le tournoi des Six Nations. Avant cette cinquième et dernière journée, le 15 de France est en tête du classement qui est devant juste l'Angleterre d'un point et l'Irlande de deux points. En cas de victoire bonifiée sur l'Écosse dimanche, et peu importe le résultat des autres matchs, les Français seront sacrés. Alors côté compo, trois changements sur la feuille de match. Maxime Lucas sera titulaire au poste de mêlée pour pallier à l'absence du capitaine Antoine Dupont, sorti sur blessure face à l'Irlande le week-end dernier. C'est d'ailleurs Grégory Aldrit qui sera capitaine dimanche contre l'Écosse. Autre changement, Nolan Le Garec sera remplaçant avec toujours un banc en 7-1 pour les Bleus. Et puis on notera aussi le retour d'un leader. Gaël Ficou sera titulaire préféré à Nicolas Deporter. Les explications du sélectionneur Fabien Galthié.
Ce sont des choix qui nous appartiennent. Il y avait challenge entre les deux joueurs éventuellement. Gaël a repris maintenant depuis 4 semaines. Il a fait deux matchs avec le Racing, un à moitié et l'autre plein. Et Gaël fait partie des joueurs qui sont automatiquement aujourd'hui dans le groupe France et son absence était liée à sa blessure. Nico Deporter a fait deux matchs avec nous en position de 12 à la fin du tournoi. Il performe énormément avec son club de Bordeaux. Donc il avait aussi des arguments. On a challengé les deux possibilités. On a décidé que ce serait Gaël.
Gaël Ficou titulaire donc dimanche à 7h contre l'Écosse qui honorera sa 94e sélection avec le 15 de France. On suivra également dans la nuit de demain à dimanche Italie-Irlande à 1h15 et Pays de Galles-Angleterre à 3h45.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Du football également ce week-end avec la 26e journée du championnat de France de Ligue 1.
On entre déjà dans le sprint final puisqu'il ne reste plus que 9 journées à jouer. Demain matin, la 26e démarra avec Nice-Auxerre à 6h45. Dans la nuit de demain à dimanche, Antoine Comboiré, le FC Nantes recevront Lille, puis Monaco ira à Angers et Rennes ira défier Lens. Dans la nuit de dimanche à lundi, on suivra 4 matchs dont un que vous attendez autant que moi, Lionel, je pense, Montpellier-Saint-Etienne. Un duel de très mal classé hein, puisque le dernier reçoit l'avant-dernier. Lyon ensuite accueillera Le Havre, Brest recevra Reims et Strasbourg sera opposé à Toulouse. Enfin, pour clôturer de la plus belle des manières cette 26e journée de Ligue 1, le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ce sera lundi à 6h45.
Allô, bonjour. Un classico en Ligue 1 et de beaux matchs sur les pelouses des autres championnats européens.
Effectivement, en Angleterre, d'abord un derby londonien entre Arsenal 2e et Chelsea 4e, mais aussi un duel entre deux équipes en difficulté cette saison, Leicester et Manchester United. En Italie, l'Inter de Milan, leader du championnat, ira défier l'Atalanta Bergame 3e. Même chose en Espagne avec le Barça, leader là aussi qui sera sur la pelouse de l'Atlético de Madrid 3e. Enfin, en Allemagne, le RB Leipzig recevra le Borussia Dortmund, tombeur de Lille, c'était en Ligue des Champions cette semaine.
Allez, on passe au sport mécanique avec de la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et le premier Grand Prix de la saison, c'est ce week-end dans la région, en Australie.
Les pilotes ont rendez-vous sur le circuit d'Albert Park à Melbourne. Les essais libres ont commencé à la mi-journée. C'est Lando Norris qui réalise pour l'instant les meilleurs temps devant Carlos Sainz et Charles Leclerc. Cette année, on ne retrouvera pas deux, mais bien trois Français sur la grille de départ avec l'arrivée d'Isaac Hadjar. Écoutez, Esteban Ocon et Pierre Gasly parler du jeune et talentueux tricolore.
Bah, j'étais à sa place aussi à un moment où j'étais le jeune qui arrivait, qui regardait les grands pilotes de F1. Et j'imagine dans quel moment il est maintenant et comment il doit être impatient de commencer. Ouais, c'est un jeune prodige et forcément, on va suivre de très près ce qu'il fait.
Je connais Isaac et Isaac, il fait ses débuts chez AlphaTauri, là où j'ai fait mes débuts avec Pierre, l'ingé français que j'avais quand j'étais là-bas aussi. Donc il y a énormément de parallèles et bien sûr, je lui souhaite tout le meilleur. Je sais que c'est quelqu'un de très, très talentueux. Je pense qu'il apporte beaucoup de fraîcheur avec sa personnalité aussi. Donc ça va être bien de suivre ça.
Et le départ du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison, ce sera donc dimanche à 15h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et du côté de la moto, les pilotes sont en Argentine ce week-end.
Le deuxième Grand Prix de la saison après celui disputé en Thaïlande est remporté par Marc Marquez devant son frère Alex. Si l'Espagnol remporte celui d'Argentine ce week-end, il décrochera la 90e victoire de sa carrière et serait donc à égalité avec une légende de la moto, Angel Nieto. La course sprint s'élancera dimanche matin à 5h, la course principale lundi matin à la même heure.
Un mot de cyclisme également avec la suite et la fin ce week-end du Paris-Nice.
Après 5 étapes, Matteo Jorgensen est toujours en tête, il devance Jonas Vingegaard, le premier français Lenny Martinez, vainqueur de la 5e étape hier et 5e. Ce soir, 6e étape longue de 210 km entre Saint-Julien en Saint-Alban et Berlétan, c'est dans les Bouches-du-Rhône.
Sur le territoire maintenant, deux rendez-vous pour les amoureux de sport en pleine nature.
Sur Nouméa d'abord, la Swimrun Volvic, dimanche matin en mode compétition ou en détente. Plusieurs parcours qui enchaînent de la course à pied et de la nage sont proposés. 39 km pour le plus long, 975 mètres pour le plus court, c'est pour les enfants. Et puis, pour ceux qui préfèrent courir et seulement courir, rendez-vous également dimanche chez Daniel Guépy à Pocreux pour le Poc and Trail, organisé par Challenge Organisation. 3 courses au programme, un grand raid, un petit raid, et puis un parcours familial.
D'autres compétitions et rendez-vous sportifs ce week-end sur le territoire.
Du cyclisme d'abord avec le Grand Prix de la ville de Dumbéa demain. Le départ sera donné à 14h du parc Fayard et l'arrivée se fera à l'ancienne auberge de Catiramona. Et puis du basket aussi avec le Challenge Benjamin dans le sud au Mont d'Or et dans le Nord à Pointe-Boute. La grande finale de ce challenge basket se fera sur l'Anse-Vata à la fin du mois.
Et puis le sport sur le territoire, c'est aussi du cricket féminin. La victoire finale des Samoa cet après-midi. Les Samoanes se sont imposés 79-78 sur les Vanuatuises en remportant donc cette première édition du tournoi international de Nouméa. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Fidji qui a dominé l'équipe de France 90-89 lors de la petite finale. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, cette nuit, les étoiles s'inviteront sur l'ouest. Ailleurs, le ciel restera très nuageux, couvert avec des averses isolées. Mais un risque d'averses fortes et parfois orageuses persistera sur les loyautés et la côte est. Le vent d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. En soirée, aux loyautés, il atteindra encore 20 à 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 40 nœuds, puis faiblira progressivement sur l'ouest. Il mollira autour de 10 nœuds. Les températures minimales seront stables, y compris entre 20 et 26 degrés. Demain matin, la côte ouest et le sud auront droit à un temps lumineux et généralement sec. Ailleurs, les nuages domineront et apporteront localement des averses qui pourront être plus marquées aux loyautés. Le vent de sud-est s'établira entre 15 et 20 nœuds, plutôt 15 à 20 nœuds sur le nord-ouest lyonnais.
Merci Nicolas, à la fin de ce journal.